Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité. Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaire qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
Action VR et Caravane 185, partenaires de Radio Pirate, vous offrent une grosse promotion pour commencer l'année 2024. Vous êtes là à préparer le camping de la famille pour cet été ou encore les vacances? On a, chez Caravane 185 et Action VR, les produits de 2024, les nouveaux produits qui viennent de rentrer, on les a au prix de 2023. Wow! Tout coûte plus cher qu'avant, partout. Mais pas chez Action VR et chez Caravane 185. Je vous rappelle que JP, méga pirate. JP est tanné d'entendre Jeff parler de petits motorisés, la petite classe B, là. Eh bien, on a maintenant le Talavera et le Compass disponible. Pour les amateurs de plein air, n'oubliez pas que VR Cargo, ça se passe chez Action VR, le plus gros vendeur, le plus gros détaillant de VR Cargo Québec. Vous pouvez mettre là-dedans votre moto, votre 4 roues, votre side-by-side, vos canots, vos motocross. Il y a de la place, c'est extraordinaire. Que ce soit pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin Filteau-Saint-Nicolas. On est également à Saint-Antonin avec Caravane 185 et sur le web pour tout le monde, actionvr.ca ou groupevr185.com. Filtre Plus pour le printemps et vous prépare pour l'été, vous fait encore économiser de l'argent là et on vous fait économiser également de l'énergie. Mais on sait que l'énergie, c'est pas mal de l'argent, donc vous économisez en double et vous savez que l'été, le temps chaud risque d'arriver sans qu'on s'en rende compte. C'est toujours un peu comme ça que ça arrive au printemps. Donc, si vous voulez être prêt pour l'air climatisé, c'est le bon temps. Et en plus, Filtre Plus vous offre une thermopompe avec un rabais allant jusqu'à 800 $ sur certains modèles de thermopompe. Et en plus, avec le financement, qui est quand même assez torieux de ce temps-là, c'est un peu difficile pour les taux et toutes ces choses-là, on a un 6 mois sans intérêt. Wow! Aujourd'hui, quand même assez rare. Ça fait longtemps qu'on vous le dit. C'est le bon temps de l'année pour acheter chez Filtre Plus. Rabais allant jusqu'à 800 $ présentement. FiltrePlus.com, on est les experts à votre service. C'est la compagnie des pirates. On est là depuis 45 ans, 734 rue Godin et FiltrePlus.com.
Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettement millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de VotreConseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40 % de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion.
Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule.
Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix.
Et tu récupères 100 % de la valeur des taxes.
Sur Facebook,
Fournier Courtage Automobile.
Fini l'époque où tu devais faire le tour du quartier pour ta campagne de financement. Tu veux ramasser de l'argent facilement pour ton école, ton club de cheer, ta troupe de danse, ton équipe sportive ou même pour la cause qui te tient à cœur? Grâce aux bûches de Noël de Pâtisserie Michaud, tu vas l'avoir, ton financement. Avec Willy, tu vas devenir le magnat de la bûche de Noël. Terminé les enveloppes pleines de monnaie à gérer. Maintenant, les ventes se font en ligne et tu vois tes profits en temps réel. Ça te parle? Va vite t'inscrire au pâtisseriemichaud.com. Les places sont limitées. Ensemble, on va le réaliser, ton financement.
Jeff Liberté. Oh yes, on a un genre de discussion de groupe. Ça, j'aime ça. On fait pas ça habituellement. On fait toujours ça quasiment one-on-one. Joe Hamel, notre chum Joe, et notre chum Yann Sénéchal. Les deux ont peut-être une vision différente sur l'arrivée du Parti conservateur du Québec. Le timing est bon parce que hier, en tout cas pour moi, c'est une grosse victoire morale. C'est sûr que regardons ça dans le big picture. C'est un peu décourageant de voir qu'il y a à peu près 63 % des gens de Marie-Victorin, mais c'est un des comtés les plus pauvres au Québec.
Et c'est pas pour rien qu'ils sont pauvres.
Ouais, pire que ça, Jeff, ils ont inventé la coupe Longueuil.
Ils ont inventé en plus la coupe Longueuil. Fleck, d'ailleurs, a fait un dessin extraordinaire le PM avec la coupe Longueuil. Écoute, c'est sûr qu'il y a un côté poche à regarder, c'est-à-dire, ouais, il y a encore 63% des gens qui votent péquiste à Marie-Victorin, mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Je pense que non. Regardons ça de l'autre côté, OK? Donc, les libéraux qui sont plus là pantoute, le PQ qui vient de perdre une place qui était une place naturelle pour eux autres, QS qui recule d'à peu près 0.5%, et tu as le Parti conservateur qui était, je pense, aux alentours de 0.7% à la dernière élection, qui dépasse le 10, qui va gruger chez les libéraux et qui va gruger chez les communistes. Écoute, on peut broyer de voir que les Québécois vont probablement remettre au pouvoir la CAQ et facilement à la prochaine élection. Mais sérieux, j'ai senti que si on avait 10% à Marie-Victorin, ça veut dire que la région de Québec est sans doute aux alentours de entre 25 et 30% facile déjà en ce moment pour le Parti conservateur. Donc, ça vient probablement confirmer les sondages, même si les sondages par région, il faut prendre ça avec un grain de sel. J'ai hâte d'entendre là-dessus, parce que tu sais, en étant, vu que c'est un sujet chaud d'actualité, parce que c'est arrivé hier soir, j'ai hâte d'entendre Yann et Joe là-dessus. Commençons par Joe. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion, bilan hier de ce qui s'est passé dans Marie-Victorin, Joe?
Yes, salut les gars. En fait, je suis allé sur place hier. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de monde au rally, au rassemblement des conservateurs qui ont fini, quoi, quatrième avec 10%, qu'au rassemblement de la CAQ qui ont fini premier avec, quoi, à peu près 35%. Donc, ça en dit long. Je pense qu'il y a un mouvement de base qui est important. Beaucoup d'anciens souverainistes là-dedans, d'anciens péquistes, d'anciens, même des gens de QS, mais beaucoup de libéraux aussi. Donc, je pense qu'il y a un mouvement de base. Tu l'as dit, je pense que le facteur le plus important de l'élection d'hier, c'est l'élimination de facto du Parti libéral du Québec, qui n'est maintenant plus une force politique crédible dans l'ensemble du Québec, à 5, même pas, je pense 6%. Je te fais un petit retour dans le passé. En 2003, le Parti libéral finissait deuxième dans Marie-Victorin. Ça, c'est l'année que Jean Charest a été élu la première fois. Deuxième à 35%, donc la CAQ gagne aujourd'hui à 35%. Le PLQ a toujours été deuxième ou troisième dans Marie-Victorin avec soit de 35 à, disons, 15%, là, dépendamment des années. L'ADQ, en fait, pour la droite, entre guillemets, ça a toujours été un comté difficile. Là. L'ADQ, je pense, a fait un maximum de même pas 20%, je crois. Donc, ça a toujours été techniquement assez difficile pour la droite de ce comté-là. Même la CAQ, ça avait pris du temps avant de scorer là-bas. Donc, il y a plusieurs leçons. Québec solidaire a fait mieux que je pensais, honnêtement. Surtout que la candidate, je pense, n'était pas très connue. Tu vois qu'il y a un 15% solide là, de base de QS. Il va falloir dealer aussi avec ça dans les autres comtés. Particulièrement des comtés où tu as beaucoup d'étudiants. Je pense que c'est le cas un peu dans Longueuil, Marie-Victorin. Ça semble être une clientèle là, dédiée à Québec solidaire. Mm-hmm. Sinon, pas de surprise avec la CAQ. Je pensais qu'il serait peut-être un petit peu plus faible, mais bon, je pense pas que ce soit représentatif du Québec en général. Là, taux de participation quand même minime, même si c'est plus un petit peu qu'une partielle, mais ça va être intéressant à suivre.
Yann?
Yes, je pense que ce qu'on voit, c'est que les conservateurs, le lapin qui vont sortir de leur chapeau, c'est le militantisme. Tu sais, il y a vraiment des gens pour les poser pancartes. Il y a vraiment beaucoup de gens pour le faire, le porte-à-porte aussi. Il faut dire une chose, la CAQ, oui, il y a eu du porte-à-porte de la CAQ, mais je veux dire, c'était avec des attachés politiques rémunérés au Parlement.
Oui.
Ça veut dire que la prochaine élection à Marie-Victorin, à la générale, ils ne sont pas là, eux autres. Là. Tandis que le PCQ va être sur le terrain avec la même gang qui sont déjà rodés, puis ça va y aller au toast. Fait que tu sais, tu es vraiment dans une position où tu dis, OK, Québec solidaire, PCQ, des bases militantes fortes. Donc, tu vois qu'ils font quand même des scores qui surprennent par rapport au sondage qu'il y avait dans Marie-Victorin. Tu vois que le PQ est définitivement mort. Je veux dire, c'était un de ses châteaux forts. Puis, PSPP a tué le parti en se présentant pas. Il y avait une façon de sauver les meubles, d'essayer de montrer que non, on n'est pas encore un cadavre. Il a choisi de pas se présenter. C'est fini. C'est fini à cause de ça. Il avait sa chance. Il l'a manqué. Il a concédé à la CAQ. Donc, c'est terminé de ce côté-là. La CAQ va probablement gagner à 42-45% la prochaine élection parce que le PQ, même les gens de Longueuil vont tourner la page pour de vrai. Là. Fait que c'est un peu ça la game locale à Marie-Victorin, mais moi aussi, 10% PCQ, je suis extrêmement surpris. Puis là, s'il y a quelqu'un qui a besoin de se poser beaucoup de questions aujourd'hui, là, c'est Dominique Anglade. C'est de dire, écoute, attends un peu, là, je vois ce qui se passe avec le PQ. PSPP va fermer la lumière au mois d'octobre. Est-ce que j'ai le goût, moi aussi, de fermer la lumière pour le parti au mois d'octobre? Je pense pas. Fait qu'il va falloir qu'elle allume, là, parce que sérieusement, le tapis est en train de lui glisser sous les pieds, puis elle s'en rend même pas compte. Parce que sur l'île de Montréal, on parle, oui, d'Éric qui est en train de rentrer par l'ouest de l'île, donc qui attaque les votes libéraux. On voit des députés qui ne veulent pas se représenter. Là, je pense que c'était Darcy McGee qui a été annoncé la semaine passée. Mais tu es vraiment dans une position où est-ce que ce qu'on oublie dans cette histoire-là, c'est que Québec solidaire aussi doit être en train de faire des gains de ce côté-là. Fait que là, tu vas avoir des comtés rouges libérales depuis des décennies qui vont devenir des luttes à trois sans avoir le PQ ou la CAQ dans le portrait. Là. Tu vas avoir QS d'un bord, PCQ de l'autre, puis les libéraux qui essayent de survivre. Ça va être une des luttes qui va être le fun parce qu'elle va définir quand même l'orientation politique des 20 à 30 prochaines années. Parce que là, l'ouest de l'île va devenir réellement un terrain de jeu politique où est-ce qu'on va devoir s'y intéresser. Je pense qu'il n'y a pas un chroniqueur politique au Québec qui est prêt à adapter son discours pour de penser que ces comtés-là sont peut-être un enjeu électoral éventuellement.
Hier, il y avait beaucoup d'attentes. Les gens... Tu sais, on est dans une époque où les gens pensent que tout se bâtit en 24 heures. Avec les médias sociaux puis la popularité overnight de tout ce qui se passe dans le côté culturel, puis après, qu'elle a fait, les influenceurs. Donc, ils ont le feeling que le même genre de patente va arriver en politique. Donc, hier, nous autres, on en parle, bon, on dit, gars, c'est quand même très bon, 10% vraiment dans une place qui n'est pas naturelle. C'est probablement une des pires places pour Éric Duhem. Il y a 10%, 10 fois plus, même 15 fois plus que qu'est-ce qu'il y avait. Sauf que là, il y a des gens qui m'écrivent. Ouais, mais ils sont pas déçus d'Éric, ils sont pas déçus, ils sont déçus du monde, ils sont déçus des Québécois, puis ça, j'en ai lu plein de commentaires. Donc, les gens sont comme, il y a du cynisme, moi-même, j'ai mes moments, c'est un peu décourageant de voir qu'il y a encore autant de monde qui aime s'être fait brasser comme on s'est fait brasser pendant 2 ans par le parti de François Legault, un parti qui est un des pires gouvernements qu'on a jamais eu, et t'as quand même une base... solide de gens qui ne sont pas nécessairement là dans la rue en train de les aider à poser des pancartes puis aller dans leurs réunions, mais ils sont là pour aller voter, les tabarouettes. Et je comprends ces gens-là de dire, tiens, il y en a qui m'écrit un matin, « Ouais, ben là, on est aussi bien de parler de sport, puis de parler de musique, puis de parler de ci, puis de parler de ça, parce que là, on est en train de... » Ils sont découragés des Québécois. Ils sont pas découragés. Ouais. Ils sont pas découragés d'Éric Duhem. Ils adorent Éric Duhem, c'est ça que je comprends. Ils adorent Éric Duhem, ils croient en Éric Duhem. Mais, Joe, ils ont peur, les gens, surtout des gens de notre âge, puis les gens de ton âge, t'es un peu plus jeune que nous, les gens de ton âge craignent encore les boomers qui vont probablement, puis c'est peut-être un dernier tour de piste, mais on est tellement plus capable de voir la CAQ, on a hâte que le Parti conservateur soit, on a quasiment hâte qu'il soit au pouvoir, alors que c'est impossible de le penser au pouvoir à la prochaine élection, là.
C'est pas impossible, c'est peu probable, mais c'est pas impossible, je dirais. Moi, je suis pas d'accord avec ton affirmation au début de show, Jeff, et je pense à quelques fois dans notre groupe de discussion que la CAQ va être facilement réélue. Moi, je pense pas qu'elle va avoir plus de comtés qu'elle a eu en 2018. Là. C'est pratiquement impossible, en fait, là, quand tu regardes un peu la carte électorale. Je comprends un peu ce sentiment, puis je le sens, tu sais, il y a comme une partie des militants qui... C'est dangereux un peu de frapper sur ce clou-là parce qu'il y a des gens qui perdent confiance dans le système en général, le système électoral. Il y a un paquet de raisons là-dedans. Là, il y a un paquet de la représentativité, etc. Mais en fait, si on embarque dans ce train-là, c'est la fin là, parce que là, réellement, tu perds toute ta base militante. Il faut vraiment pas lâcher. Moi, je pense que la carte électorale peut être favorable pour le Parti conservateur du Québec. Pour moi, un scénario intéressant et possible pour l'élection générale, c'est quelque chose de similaire à 2007 avec l'ADQ, forcer un gouvernement minoritaire et, en fait, amorcer le début de quelque chose. Il faut vraiment là, avoir un recentrement de la politique au Québec. On l'a déjà vu dans les disons, les 6 derniers mois, à quel point les enjeux sont plus redevenus au centre. Je pense qu'on pourrait le voir là avec sur la carte électorale. Concentrons-nous sur la région de Québec. Oui, mais arrêtons de parler juste de la région de Québec. Je pense que, par exemple, Saguenay, c'est un endroit qu'on pourrait faire des gains, des comtés comme Dubuc, la Mauricie, Shawinigan, ces coins-là, peut-être Trois-Rivières même, avec un bon candidat, une bonne candidate. Beauce, évidemment, Chaudière-Appalaches, qui sait, peut-être même Bas-Saint-Laurent. Donc, tout le Québec, c'est quoi, disons, 80 comtés sur 125 où le PCQ peut être compétitif. Donc, faut vraiment focusser là-dessus. Puis, comme tu as dit, ton observation sur l'ouest de l'île, ça, c'est passé sous le radar de tout le monde, mais moi, je le vois, là, je vous dis. Rappelez-vous que le Parti libéral, pourquoi ils avaient le vote acquis des anglophones, c'est parce qu'ils pouvaient soit livrer le gouvernement ou soit une forte opposition dans un contexte de potentiel référendum. Actuellement, ils peuvent offrir ni l'un ni l'autre. C'est vraiment un changement important là, pour le Québec. Québec solidaire, comme disait Yann, pourrait faire des gains dans les comtés plus francophones. Je pense à certains coins de l'île actuellement qui sont libérales ou même de la CAQ où le QS pourrait se positionner. Mais je pense pas que QS a un gros problème au niveau anglophone. Ce n'est pas un parti qui est très bien perçu. Pourrait faire une espèce de pivot vers un genre de NPD Québec, là, éventuellement. Mais je pense que c'est vraiment plus un gain qui pourrait être repris par le PCQ. Là.
Yann, effectivement, regarde, puis je suis d'accord avec Joe, là, je veux dire, faut voir ça. Plus pour... Moi, j'ai peur des boomers. C'est ma génération.
Ah, voilà. Mais Jeff, est là la question. Est là... Si on regarde, c'est sûr que le lien est douteux, il y a un océan qui nous sépare. Mais si on regarde le vote qui s'est passé en France.
Il y a nommé des communistes en 1834 en France.
Oui, oh, beaucoup de communistes. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, surtout par rapport au Québec, tu sais, hier, là, les 5697 votes pour la CAQ dans Longueuil, là, j'aimerais vraiment ça, avoir une photo de chaque personne qui a voté CAQ.
Ginette!
C'est les mêmes personnes qui ont voté Macron en France.
La petite Shirley, tu gagnais, Ginette!
Pensez à ça deux secondes. Macron, c'est 41% du vote pour les 60. Si tu as 65 ans et plus, tu votes Macron.
C'est ouais. Le seul groupe démographique que Macron gagne.
Ben, exactement ça. Pas de vieux, pas de Macron. C'est aussi simple que ça. Donc, ces gens-là, ils ont besoin, ils sentent une certaine sécurité dans le macronisme, si je peux dire. C'est le même sentiment qu'ils ressentent avec le monsieur qu'on l'aime pas.
Bien, hier, Legault, je pense...
C'est le même sentiment.
C'est qui l'a partagé sur le groupe, mais il y a un bout de son discours où est-ce qu'il dit « Les gens, ils sont prêts pour le changement, mais le changement sous contrôle. »
Le changement sous contrôle.
Mollo, mollo, mollo. Puis ça, je pense c'est là vraiment que Legault a scarré des points, n'en plus finir. Parce qu'on l'a dit maintes et maintes fois, il a changé d'électorat. Il est rendu avec un électorat boomer alors qu'il était rentré avec les pick-up et les minivans.
Oui, voilà. Oui.
Mais son électorat boomer, c'est pour la première fois de l'histoire du Québec, est unifié. Cet électorat était toujours divisé entre fédéralistes et souverainistes. Maintenant, cet électorat-là est unifié. Et ils scorent comme c'est pas possible là-dedans. Le PCQ ne score absolument pas avec les boomers. On est à 7% le Parti conservateur du Québec avec les boomers.
C'est ça.
C'est une catastrophe au niveau des boomers. Puis en même temps, c'est quoi que les boomers veulent? Ils veulent que leur petit Québec, il change pas. Okay? Ils veulent que tout ce qu'on a construit, là, on a construit le Québec, mon petit enfant, là. Puis, on veut pas que ça change.
Puis quand on parle de force, excusez, je prends un peu le monopole, là. Si on parle de force des réseaux sociaux en tant que tels, okay, parlant de l'élection en France, la grande force okay, des réseaux sociaux, la personne qui a fait déplacer des foules, un gars comme Zemmour, exemple, il n'y a pas de Zemmour ici, mais je parle de la France, réseaux sociaux, autrement dit, l'espèce de brassage, quand tu dis que tu brasses la soupe de A à Z, les rassemblements pactés de monde, on se ramasse avec un gars qui se fait complètement déclasser pendant l'élection.
Parce que le
ça veut dire que les réseaux sociaux, les rassemblements pactés de monde, l'espèce de pouvoir du peuple qu'on sent qui monte, boum, se fait ramasser par les vieux. C'est les vieux et les employés du gouvernement qui décident.
Puis, ce qui arrive avec cette histoire-là aussi, c'est que les jeunes X, Y, ce qu'on va vivre naturellement, c'est quand tu regardes le 18-34, Québec solidaire va être très, très, très fort. Tu vois la même chose avec Mélenchon en France.
Exactement.
Et le PCQ va scorer quand même vraiment bien le 18-34. Ça, c'est très lié aux mesures sanitaires, on s'en doute. Le 34-54, t'es dans une position, 35-54, où est-ce que là, c'est le PCQ qui score vraiment fort? Puis tu vas observer la même chose avec Le Pen en France, même un peu Zemmour, parce que les gens, ils paient des gros impôts. C'est des impôts qui sont lourds. C'est eux qui ont des enfants, la majorité. C'est eux qui sont tannés de faire réglementer leur vie.
Ils sont tannés et sont prêts à risquer quelque chose.
C'est les moutons. Fait que t'es vraiment dans une situation où est-ce que les X, les Y sont tannés de se faire diriger par les boomers. Ils ont un défaut principal, c'est qu'ils sont très divisés entre la gauche et la droite. Québec solidaire et le PCQ ont des superbes luttes dans ces groupes démographiques-là. En fait, c'est ces guerres-là qui monopolisent les réseaux sociaux. Oui. Les débats gauche-droite sur les réseaux sociaux sont immatures un peu au Québec, là, mais je pense qu'ils vont gagner en maturité de plus en plus au fur et à mesure qu'il y a des clashs qui se passent, parce qu'on a finalement sorti du paradigme de la souveraineté et tout ça. Mais les boomers sont unis.
Oui. Macron, il n'a pas fait de campagne. Macron, il a fait zéro campagne. Tout le monde s'engueulait, tout le monde se chamoyait. Le seul qui n'a pas parlé, c'est Macron.
Parce que les boomers, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça change pas.
Premièrement, Joe, est-ce que je sais, moi je sais plus comment ça fonctionne aujourd'hui parce qu'on est dans une époque, on vient de le dire, oui, on est entre deux mondes. Le monde des boomers branchés sur la TV conventionnelle comme ils écoutaient il y a 20 ans, mais au lieu d'être à 5 heures le soir, c'est mur à mur toute la journée. Et d'un autre côté, t'as le nouveau monde dans lequel on est avec les médias sociaux puis tout ce qui se passe. Puis là, on voit très clairement ce clivage-là entre les deux. Mais dans cette époque-là, on a une époque où on dirait que tout se consomme très rapidement. On voit, tu sais, la rapidité à laquelle le Parti libéral est en train de crever, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Là. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, c'était le parti au pouvoir. Les péquistes, la même chose, quoi qu'ils aient quand même été capables, avec un candidat, avec de la notoriété, qui a été capable de tenir le fort un peu hier pendant l'élection complémentaire. Mais je veux dire, est-ce qu'on est dans une époque pour Éric Duhaime, OK? Est-ce qu'il bâtit quelque chose pour une ou deux ou trois élections où on est dans une nouvelle époque politique au Québec avec l'arrivée de nouveaux partis à tout bout de champ qui vont arriver, des leaders qui vont arriver. Dans le sens de la question, est-ce que c'est important de scorer puis de dire « faut que j'aille chercher les boomers à cette élection-là absolument si je veux avoir le plus de députés » ou tu y vas puis tu dis « gars, on est capable d'aller en chercher 15, 16, 17, 18, un peu éparpillés dans les régions que tu as dit ». On travaille notre base qui va être nos boomers de demain, c'est-à-dire les X. On essaye de convaincre le plus de 18-34 de se joindre au mouvement et on y va sur un genre de marathon. Comment tu vois ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Éric? Parce que, juste vite demain, les commentaires que j'ai lus ce matin de la part des gens qui analysent la politique sont très positifs sur la performance d'Éric Duhaime. Donc, eux autres, ils voient quelque chose là. Je pensais qu'il allait peut-être frapper plus dessus. Donc, il y a de quoi qui se passe, tu l'as dit tantôt, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Éric quand il voit ces résultats-là avec la démographie?
Moi, je suis moins divisé. Vous êtes pas mal, il y a un consensus là, dans vos opinions sur les classes d'âge et les générations. C'est sûr que ça a un très gros impact, mais je pense qu'il y a des enjeux. Éric est très porté sur les enjeux. Puis je pense que la politique des prochains siècles, là, disons les deux prochains siècles, va être vraiment, vraiment basée sur les enjeux qui vont bouger par rapport aux élections précédentes. Pour moi, un pic qui est en train de se former, qui est très évident, on est rendu vraiment, je pense, l'autre bord de la colline, puis on descend tranquillement, c'est tout l'enjeu de l'environnement et de l'impact budgétaire de ces mesures-là. Je pense que c'est en train de s'affaiblir tranquillement, pas vite. Puis ça va vraiment affecter des partis comme, disons, Québec solidaire ou même des partis... disons, entre guillemets, de centre qui en avait fait une partie importante de leur programme. Regarde, par exemple, la CAQ. Donc, moi, je te dirais que je serais pas surpris de voir d'ici les deux prochains cycles électoraux, voir des enjeux comme la tarification du carbone disparaître. Ça va être quelque chose qui va être difficile à défendre parce qu'on est dans une nouvelle réalité où on voit les impacts réels de ces politiques-là sur le portefeuille des gens. Tu sais, la taxe sur le carbone, on le voit dans le prix du gaz maintenant. Et ces gouvernements-là, regarde, par exemple, Biden et Trudeau, dans les trois dernières semaines, ont reculé sur des enjeux importants. Là, par exemple, ils ont permis de construire la plateforme pétrolière en Atlantique. Biden vient d'annoncer ce matin qu'il va autoriser l'éthanol, c'est-à-dire utiliser du blé pour faire du gaz. Ça, c'est un des pires scandales des dernières années là, où ça avait fait augmenter le prix de la nourriture. Tu sais, c'est une très mauvaise idée. Tu es bien mieux de driller pour du pétrole directement que de prendre du blé, tu sais, franchement. Fait qu'on voit qu'ils sont forcés par la réalité de se recentrer. Puis si, je pense, un parti qui reste collé sur ces valeurs-là et qui frappe sur le clou de revenir à la réalité, et ça, il y en a un qui fait très bien ça, je pense, un des meilleurs actuellement en Amérique, c'est Pierre Poilievre. On le voit, là, j'écoutais tantôt la fin de l'autre show, ce qu'il fait avec l'habitation, ce qu'il fait avec l'inflation. L'inflation, c'est un enjeu majeur. Et ça, ça va aller chercher, je pense, une tranche des baby-boomers qui va être, par exemple, les retraités qui sont en revenu fixe maintenant, là, qui ont un capital accumulé, qui ont des revenus qui vont diminuer en termes de revenus réels dans le temps par rapport à l'inflation. Donc, il y a d'autres enjeux sur lesquels, je pense, Éric peut pivoter. D'ailleurs, il y a des passes sur la palette qui sont faites de la CAQ sur des enjeux comme, par exemple, là, ce qu'on voit, c'est que il y a des gros points d'interrogation sur certains dossiers, par exemple le 14 milliards de contrats sans appel d'offres. On lit ce matin aussi l'histoire là, des autobus, là, une espèce de monopole qui a été consenti à Lyon. Fait qu'on se rend compte que c'est une genre d'un peu de corruption libérale.
Ça, c'est dégueulasse, ce dossier-là, en passant.
Mais avec des chiffres 10 fois plus gros. Là, moi, je rappelle, le scandale des commandites, c'était même pas 200 millions. Là, on parle de 14 milliards de contrats sans appel d'offres. Même s'il y a 1% qui est problématique, c'est quand même énorme. Là. Donc, il y a d'autres clous sur lesquels Éric peut frapper. L'inflation, c'en est un. Les politiques, en fait, c'est pas compliqué. Il faut que les gens réalisent que les mauvaises politiques présentées par la CAQ, le Parti libéral et les partis de gauche ont maintenant un impact sur votre portefeuille. Et ça me semble, particulièrement pour les jeunes aussi, tu disais les jeunes sont divisés gauche-droite. Mais là, moi, ce que je me rends compte, c'est que des jeunes sont plus actuellement inquiétés par la non-accès à la propriété et l'inflation que, disons, entre guillemets, la crise climatique. Et même ça, c'était des gens qui étaient plus à gauche. Là. Moi, je commence à le sentir, ça, dans le débat.
Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Yann, de ce que Joe vient de dire?
Ben, écoute, pour un junkie de politique, tout ce qu'il vient de dire, c'est de la musique à mes oreilles. Le fuck, c'est que les gens votent pas en fonction des enjeux politiques. Les gens sont... Puis là, c'est mon côté très cynique qui ressort, là. Mais les gens votent d'abord et avant tout pour les personnalités de la manière qu'ils leur sont présentées. Éric Duhaime n'aura jamais la cote avec les boomers de par le fait que les médias traditionnels sont financés directement par le gouvernement. Puis si on veut réellement faire un shit show, je pense qu'on devrait attaquer plus ça, cet élément-là, pour vraiment les avoir sur le dos pour de vrai. Parce que ce qu'on s'est rendu compte avec TVA, par exemple, puis Québécois, c'est qu'ils peuvent réellement devenir des caricatures d'eux-mêmes si on les motive assez. Puis moi, de voir ces grands médias-là taper sur Éric à tour de bras d'une manière ultra démagogique, je pense que ça l'aide plus que ça nuit. Mais honnêtement, tant aussi longtemps que la clientèle du baby-boom va se concentrer sur... Oui, l'inflation, OK, ils sont à revenu fixe tout seul, mais la plupart, c'est des salariés de l'État ou des ex-salariés de l'État. Fait que ça va aller bougonner que leurs rentes sont mal indexées, puis pour qu'ils ferment leur gueule, on va faire un ajustement pour que éventuellement ça soit un peu mieux de leur côté. Ça va être quelque chose de très facile à modifier pour la CAQ, pour les maintenir satisfaits. Fait que, outre ça, c'est quoi? C'est le système de santé. On sait tous qu'un système de santé mixte avec une concurrence du privé aiderait vraiment à améliorer leurs services. Mais c'est pas ça qu'on lui dit à TVA. On leur dit « Non, 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 le PCQ, il va avoir une carte de crédit, puis on va être encore dans ces astifies de niaiseries-là à la prochaine campagne électorale. » Le problème, présentement, avec la clientèle du baby-boom, c'est qu'on est pogné, oui, avec eux autres, mais on est pogné dans ce brainwashage-là de cerveau qui se passe dans nos médias traditionnels, et je ne pense pas qu'on va en sortir. Dans 20 ans, c'est réglé, parce que dans 20 ans, les boomers, ils ont 85-90, donc la moitié ou même le trois quarts qui sont plus là, là. Ce problème-là va se régler naturellement dans les 15-20 prochaines années.
Non, ben non.
Mais, ben oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je suis cynique en politique. Ce cynisme-là vient principalement de ça. C'est qu'il y a une clientèle qui veut rien savoir. La meilleure chose qu'on pourrait avoir, c'est que cette clientèle-là se divise, mais elle se divise avec qui?
Ouais, mais,
qui est-ce qui va ouais, diviser cette clientèle-là?
C'est quand même phénoménal ce que fait Éric au niveau des chiffres. Je comprends ça. Puis hier c'est un...
Indiscutable.
Le laboratoire est mauvais. Tu veux dire, t'as une place péquiste mur à mur depuis toujours. Le candidat péquiste, c'est un candidat parachuté par, même s'il était NPD, Vert, etc., Pierre Nantel, que je connais personnellement depuis 30 ans. Pierre, c'est un gars qui est à toutes les couleurs, il peut mettre toutes les chandails, mais c'est un gars qui se vend bien. C'est un gars qui a travaillé dans le disque toute sa vie. Puis il était à Québécois, puis il était... Là, Québécois était un peu fourré. T'as un des leurs qui était à joute, puis qui est souvent en onde, puis après, en même temps, ils veulent appuyer la CAQ. Donc, ça a donné 63 %. Mais c'est un mauvais laboratoire, Marie-Victorin. Puis je te dirais, grosse partie de Montréal, c'est un mauvais laboratoire. Ça l'a été pour la CAQ pendant longtemps, avant que la CAQ s'établisse comme étant le parti à élire pour devenir majoritaire. Ça rentre toujours à Montréal par Mirabel, ça rentre un peu par la Rive-Sud, c'est très long de s'établir au cœur de Montréal. Donc,
tu te rappelles-tu, Jeff, il y avait une députée à Miami, pas Miami, à Montmagny.
Oui.
Miami, pas la même température.
Non.
à Montmagny, elle avait mis le parti de la CAQ dans la marde, puis sérieusement, ils ont sauvé les mêmes en la faisant pas démissionner. Mais si cette députée-là avait démissionné... Honnêtement, là, comme shit show, on aurait eu un pas pire
avec ça. Oui, c'est probablement que ça aurait été Éric qui aurait gagné avec une bonne candidate ou un bon candidat. Mais ce que je veux dire, c'est que, puis je m'en vais du bord à Joe là-dessus, c'est parce que des fois, on veut aller vite, mais hier, 10, c'est incroyable. Les chiffres qu'on a, qui sont présentés, c'est incroyable. Puis je te dirais même que la couverture est en train de changer. Puis, je te dis pas que les boomers vont avoir le temps d'échanger d'ici le mois d'octobre, mais, tu sais, les médias en tant que tels, ce qu'ils aiment, à un moment donné, c'est d'avoir un peu... Là, il n'y a plus de COVID, OK? Il n'y en a plus de COVID, là, il n'y a plus... L'Ukraine, ça pogne pas, la COVID, ça pogne plus. Là, tu as besoin d'avoir un peu de clic, tu as besoin d'avoir un peu d'intérêt sur ce que tu produis comme média. Et Éric, c'est une machine à clip. Éric, c'est une machine qui va te fournir un à deux sujets dans tes équipes de débat en fin de journée à TV. Et même si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il va devenir incontournable. Donc, je sais qu'octobre, c'est vite. Je sais que peut-être que pour certaines régions, ça va être... Mais, tu sais, moi, j'ai un côté cynique avec les Québécois, avec les boomers, mais j'ai un côté où je suis un méga fan d'Éric, puis je suis impressionné de la performance qu'il donne. Puis, veut pas, c'est la même gang de gens qui votent, qui ont voté ADQ quand il y a eu 42 élus. Ça peut arriver, c'est la même gang qui ont voté, à un moment donné, sur une histoire pour le NPD, qui ont créé une vague orange. C'est une gang qui est imprévisible quand même. Ça prend juste une petite patente émotive, puis le feu pogne avec les chiffres qu'il y a en ce moment. Là.
Ah.
Joe, vas-y.
Non, absolument, absolument. Écoute, je pense que ton analyse est bonne. Il faut, Éric doit maintenant pivoter. Ben, il va quand même rester, on dit souvent l'électorat, la mémoire courte, mais c'est tellement important ce qui s'est passé dans les deux dernières années que je pense pas que les gens vont oublier. T'sais, il y a des gens qui ont été empêchés d'aller aux funérailles de leurs parents. Il y a des gens, écoute, Éric me contait des affaires, il reçoit des messages des fois. C'est ça un peu qui le motive aussi. Il y a quand même une espèce de blessure importante que le Québec a vécue. Je pense pas que les gens vont oublier du jour au lendemain. Même l'été, ça sera pas assez. Et là-dedans, Jeff et Yann, il y a des boomers aussi. Il y a des boomers qui n'ont pas pu voir leurs petits-enfants, qui n'ont pas pu voyager, qui ont été leurs deux premières années de retraite, disons, qui ont été déscrapés par ça. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas couper directement avec la génération, découper, disons, l'électorat avec la génération. Mais il faut vraiment qu'ils trouvent d'autres enjeux. Puis je pense que ça commence à se positionner. Mais les prochains mois là, vont être critiques parce que oui, il y a une petite éclipse avec l'été. Mais il va y avoir aussi des candidats à présenter, particulièrement dans le domaine financier. C'est qui ton potentiel ministre des Finances?
Oui.
Qui ton ministre de la Santé, on l'a vu potentiellement avec Dr. El Ayoubi. Il y a du monde, là. Il y a du monde important en passant, là. Il y a des candidats de qualité qui ont été présentés. Je regardais, là, depuis le début, un gars en Outaouais, je pense, qui c'est un gars qui est aimé de sa communauté, un des plus gros concessionnaires au Québec à l'époque. Donc, il y a des gars et des femmes et des hommes qui ont des candidatures de qualité, puis je pense qu'il va en avoir d'autres, là. Ça va avoir un impact, là.
Je suis en accord avec ça parce que la meilleure chose qui pouvait arriver à Éric, c'était d'avoir une montée assez rapide, crédible, suffisamment de temps avant les élections pour être capable de recruter. Fait que là, les sondages à 20-24 % l'ont vraiment aidé parce que une personne normale, c'est pas comme moi. Là. Moi, je promets à Éric que je vais me présenter à 1 % à 10 % j'ai dit t'enlèves ma candidature, mon sacrifice, t'es trop haut dans les sondages.
Oui, c'est ça.
Le monde normal, c'est pas ça. Là. Le monde normal, c'est quand il arrive puis que tu montes dans les sondages, ils ont plus de goût de se présenter.
C'est ça.
Exactement. Fait que ça, c'était ça là-dessus, Joe, 100% raison. Puis Eric, depuis le début, il fait juste ça, nous faire mentir. Moi, jamais, 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 j'aurais pensé qu'il serait à 10% aujourd'hui. Là.
Dans Marie-Victorin.
Non, non. Au Québec.
Au Québec. OK, ouais.
Non, non. Revenons à base. Là. Éric Duhaime nous annonce qu'il ben, en fait, je parle à Éric Duhaime avant qu'il prenne sa décision d'y aller. Là. Je reviens au tout début de tout. Je fais, man, je te lève mon chapeau, t'es vraiment sharp parce que moi, je ferais pas ça. Mais si t'as besoin d'aide, moi, t'aider. Mais c'est là que j'y ai promis. J'ai dit, ouais, je vais me présenter pour toi si t'as besoin d'une face, une pancarte, puis tout ça. C'est sûr que je t'aide. Crime, ça a pris une couple de mois. Il était rendu à 10% des sondages. Qu'est-ce qui se passe, sacrifice? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Il travaille comme un fou. Là. Tout le monde, on le voit aller. Là. Il a pas peur de se salir les mains. Il n'a pas peur d'aller au front. Puis il ne panique pas non plus. Puis, ils en ont fait des erreurs. Puis les erreurs du PCQ se multiplient quand même depuis plusieurs semaines. Là. C'est pas tout rose. Là. Hier encore, on a attaqué Mitch Garber d'une façon un peu indécente, je te dirais, sur Twitter. Sauf qu'avec Eric, c'est un peu teflon, toutes ces affaires-là. Il n'y a rien qui colle. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle parce qu'ils ont la bonne approche. Ils sont humbles. Ils savent qu'ils vont faire des erreurs puis ils ne cachent pas leurs erreurs. Ils n'essayent pas de faire une politique un peu avec ça. Fait que pour l'instant, ils ont un peu une lune de miel puis tout se passe bien. Éventuellement, il va y avoir des embûches. Là. Ça, c'est assez évident. Sauf qu'ils sont capables de recruter du bon monde. Fait que, tu sais, depuis le début, là, je ne fais qu'être surpris positivement. Mais je suis la même personne. Je suis encore profondément convaincu que les Québécois sont incapables de changer.
Qu'est-ce qui... regarde, Jerry, je sais que tu as un bon pif là-dessus aussi, puis je pose la question à tout le monde, à commencer par Joe. Joe les a énumérés tantôt, là, les choses qui commencent à prendre le bord, puis les choses qui commencent à toucher les gens. Parce que moi, ce que je vois, c'est on était en train d'allumer le feu, puis finalement, tu te rends compte que tu as du bon bois, le bois pour partir, le foyer est bon, puis tes bûches sont pas mal secs. Tu sens que tu vas avoir un beau feu. Il manque peut-être un peu de gaz pour que tu passes de, je sais pas moi, projection 5 élus à 20-25, puis que tu es peut-être en ligne pour être au moins l'opposition officielle au mois d'octobre. Ça prend... On le sait ce que ça prend. Les Québécois sont très émotifs. Ça prend. C'est une affaire. Ça peut arriver au débat, ça peut arriver juste avant, ça peut arriver à quelques jours du scrutin. Mais les Québécois ont cette tendance-là. Il y a une affaire qui peut arriver qui va changer complètement des gens qui traitent aujourd'hui Éric de gourou, de teuton, de tout ce que tu veux, parce que c'est le même qu'on l'a étiqueté à bien des endroits. Et là, ces gens-là, à un mois de l'élection, tu les vois sur Twitter, le avant et après est complètement changé. Là, maintenant, Éric Duhaime, c'est le rhum. Il peut arriver quelque chose. Quel est le sujet? Oui, l'inflation, puis d'autres affaires. Mais comment Éric va faire? Parce qu'Éric a un côté assez pragmatique. Il a un côté, oui, c'est un bon communicateur. Oui, c'est un gars de cœur. Mais c'est quand même une machine à parole. Mais il y a un côté très émotif qu'il doit aller chercher pour que le feu pogne comme tantôt. C'est où que ça va jouer? Est-ce que c'est relié peut-être à une crise économique qui s'en vient avec l'inflation, etc.? Où tu sens que Éric peut compter des gros, gros, gros points dans les prochaines semaines, les prochains mois, juste à la veille de l'élection, puis que ça se traduise en siège? Tu l'as énuméré tantôt, mais quels sont-ils? Puis comment il doit les aborder pour que ça lève?
Dans les régions, et ça, je parle par exemple Saguenay, Abitibi, parce que c'est toutes des régions un peu similaires sur le fond, là. Saguenay, Abitibi, Côte-Nord, je pense que Éric est seul devant sur l'enjeu des ressources. Et ça, il y a un consensus assez bien établi dans les régions sur cet enjeu-là, oui. de développer efficacement et intelligemment nos ressources. La CAQ s'est vraiment tirée dans le pied, par exemple, avec GNL Québec. Ils ont quand même envoyé un signal important là, que si les médias envoyaient un coup de... Si un conseiller politique de M. Legault va luncher avec un média et qu'ils disent que les médias ne trouvent pas ça intéressant, le GNL Québec, ben, ils peuvent reculer là, sur un dissent, se retourner sur un dissent. Ça, je pense que c'est un symbole important que ce gouvernement-là n'est pas commis au développement économique fondamental du Québec qui passe par ses ressources naturelles. Ça, Éric est très, très clair là-dessus. Puis ça, je pense qu'il va bien le défendre, il va être cohérent là-dessus. Pour le reste, ben, je pense qu'il y a quelque chose aussi. À la base, c'est une pièce de théâtre, la politique. Oui. Les gens veulent voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Puis un actuellement qui marque des points avec ça, qu'on ne connaissait pas vraiment sous ce feu-là, là, sous cet angle-là, pour être honnête. Regarde Pierre Poilievre. Oui. Les gens actuellement voient un fighter. Moi, je le suivais un peu. Je l'ai déjà rencontré. Le gars est très intelligent. Il s'intéresse, tout ça. Mais je le connaissais pas comme un fighter comme ça. Puis de la manière aussi qu'il est présenté. Écoute, il fait des rallies avec une espèce de town hall, tu sais, une scène centrale avec des gens autour. Il accroche quelqu'un, il parle directement là, sous l'impulsion, répond aux questions. Donc, je pense qu'Éric est capable de faire ça aussi. Puis c'est, ça, je pense que ça va détonner avec la campagne, je te dirais, très, très propre, très, très immunisée que va vouloir mener. Parce qu'actuellement, ils vont vouloir sauver les meubles jusqu'à la fin, en fait, la CAQ. Là. Et je pense pas que Legault, c'est pas un fighter. Là. C'est pas quelqu'un qui transpire le goût de se battre pour le Québec. C'est bon, c'est petit train va loin, on va essayer de gagner à gauche et à droite. Mais Éric, là, il va y aller all-in. Puis je pense que ça va conquérir une autre partie. Tantôt, on parlait là, des différents enjeux qui pourraient peut-être toucher les boomers. Mais ça, c'est assez général, comment ça conquiert les gens au niveau politique. Quand quelqu'un veut fighter, généralement, tu as une petite prime à l'urne avec ça. Puis rappelez-vous, c'est pas impossible. Tantôt, on parlait de passer de tiers, même de partis inexistants à l'opposition. En 2007, l'ADQ était passé de deuxième parti d'opposition à opposition officielle. Oui. Rappelez-vous, Justin Trudeau était passé de troisième parti au gouvernement là, en 2015. C'est quand même quelque chose aussi. Là. Personne ne le voyait au gouvernement au début de la campagne. T'sais. On avait plutôt les yeux tournés vers Mulcair qui s'est planté royalement. Donc, c'est vraiment loin encore. Et je pense que les débats vont avoir un impact important sur la campagne. Et si tu regardes un petit peu, regarde le line-up, là, de loin, Éric est l'un des meilleurs débatteurs de ce groupe-là.
Oui. Il va les manger de manière incroyable. Mais Poilievre, c'est... Écoute, moi, je Jean Charest, j'abdiquerais tout de suite, là, je lèverais le drapeau quand c'est terminé. J'ai même l'impression qu'ils font semblant que ça ne les dérange pas, mais j'ai comme l'impression que les libéraux sentent la pression parce que tu le vois, là, le mouvement est trop fort. Puis tu l'as dit, c'est un gars qu'on avait vu en politique depuis toujours, on ne le connaissait pas trop, on voyait qu'il y avait toujours des bons points en chambre, il était intéressant. Mais là, il a pris un côté très proche du monde. Puis, donc, ce qu'on parlait tantôt, l'histoire de la maison, tu sais, il va dans les points qu'on parle. Qu'est-ce qui affecte la vie des gens pour vrai? Est-ce que Éric doit... Puis c'était très bien, là, je ne suis pas en train de remettre ça en question. Tout ce qu'il a fait sur Facebook, la manière qu'il le fait, les gens appellent, les gens interviennent, etc. C'est extraordinaire, ça a fonctionné. Mais là, est-ce qu'il peut s'inspirer de ce que Poilievre ferait, c'est-à-dire que d'aller à une station d'essence, aller chez Costco voir les gens qui mettent de l'essence, « Hey, aimeriez-vous ça? Payer 15 cents de moins. On pourrait enlever la TPS dessus, la TVQ plutôt. On pourrait enlever la TVQ, ça serait 15 cents de moins. Vous avez mis 50 litres, ça fait tel montant, ça fait tel nombre de piastres que vous auriez dans vos poches cette semaine, la semaine prochaine. » D'aller le dire directement à quelqu'un qui est en train de filmer, mettre ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est rendu là, Yann? Puis, écoute, Joe, oui. Tu reviendras là-dessus parce que moi, je pense qu'Éric est rendu là. Il y a ce côté-là que les gens le trouvent fin. Éric est fin. Éric, c'est un bon gars. Je pense qu'il faut qu'il sorte de son condo maintenant puis qu'il aille rencontrer les gens. Puis je sais qu'il le fait pour aller rencontrer des militants puis des candidats. Puis je sais qu'il a les mains pleines. Puis, mais des petites vidéos, des fois, que ça prend pas nécessairement beaucoup de temps. Je pense que c'est très efficace. Poilievre de le monde, Yann.
Ben en fait, la première fois qu'on a senti que le PCQ avait de l'argent dans ses coffres, c'est la semaine passée dans leur démonstration à Chauveau. Pas la soirée comme telle, le vidéo qui est venu après. Le vidéo qui est venu après t'a fait « Olé, à ta minute, là. Il y a des professionnels. Il y a des professionnels dans cette équipe-là. »
Bernard Drainville a pris la vidéo que j'ai mis puis il a dit « Si vous pensez que c'est tout des coucous, checkez ça. »
Exactement. Fait que là, pour la première fois de son histoire, le Parti conservateur du Québec a donné l'impression qu'il y avait des professionnels dans ce parti-là, des professionnels de l'image. Puis ça, c'est, tu sais, on sera pas de cachette, le Poilievre, quand il arrive puis qu'il fait son vidéo avec la maison à Vancouver, tu sais, il manque une couple de mots, c'est pas un acteur parfait, mais c'est ce qui fait son charme d'une certaine façon. Mais faites-vous pas de cachette, là, il y a une équipe de tournage en arrière de ça, il y a un texte qui a été préparé, ça n'a pas été improvisé, cette affaire-là.
Ouais.
Fait qu'il y a une équipe professionnelle autour de Poilievre aussi. Puis c'est la première fois qu'on a senti qu'il y a de l'argent au Parti conservateur du Québec. Ça, c'est, by the way, il faut lever notre chapeau à Adrien Pouliot, Il n'a pas remis un parti à Éric Duhaime qui était en difficulté financière. Il a remis un parti qui était en bonne santé, qui n'avait pas de dette. Ça, c'est tout grâce à Adrien. Mais depuis qu'Éric est arrivé, ce qui est arrivé, c'est que là, c'est pas juste qu'on gère bien les dépenses, c'est qu'on avait des revenus en plus, là.
Le gars qui fait des vidéos me dit, garde, j'ai plein d'idées, je veux faire telle affaire, je jase constamment avec lui. Il dit, garde, moi, j'ai plein. Il a vraiment fait une vidéo incroyable. Et ça, ça a shaké le temple. Joe, est-ce que tu penses qu'il doit, sans copier nécessairement, le but n'est pas de copier, il faut que tu trouves ta personnalité, mais est-ce que ce genre de patente-là, puis je pense qu'il y a un bon point, la vidéo d'en fin de semaine a fait un job incroyable sur la soirée qu'il y a eu à Chauveau. Est-ce que Éric est rendu peut-être à jouer sur ce genre de nanane-là parce que. C'est son avantage, parce que jamais ils vont le présenter de même, mettons, à LCN ou autre. Est-ce qu'il devrait aller parler un peu?
Non, absolument. Je pense que Yann l'a bien dit, le parti se professionnalise, mais je pense qu'il doit aller encore plus loin. Ça prend des gens sur le terrain, ça prend aussi des organisateurs dans chacune des régions, parce que ça, la CAQ, là, par définition, là, ils ont leur bureau de comté. Ils ont des députés qui vont travailler juste pour l'élection dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc le PCQ, en fait, ça, c'est, tu parlais tantôt, Yann, de l'aspect financier. Les dons, les indicateurs, la croissance des dons au PCQ, puis le fait qu'il soit premier et de loin là, au Québec pour les dons et le nombre de donateurs, c'est de loin l'indicateur le plus important, ça, de l'adhésion à un parti politique puis de la croissance. Là. Si on regarde, tu parles à des spécialistes au niveau politique. Par exemple, aux États-Unis, dans les élections, un des indicateurs clés, c'est la croissance du membership puis la croissance des dons. Ça, tu vois que c'est organique. Là. Ça veut dire que c'est des gens qui donnent de l'argent à un parti politique, ils y croient vraiment. Oui. Et ça, je pense que c'est quand même assez distribué dans l'ensemble du Québec. C'est pas dans quelques comtés, là,
exact.
Comme à l'époque du PLQ, distribué. Où tu avais une dizaine de gars qui donnaient 3 000. Là, c'est vraiment réparti dans l'ensemble du Québec. Et ça semble se maintenir. C'est pas juste un boom... qu'il y a eu là, pendant les mesures, c'est quelque chose qui semble assez soutenu. Et ça, je pense qu'Éric doit l'utiliser, doit déployer sur le terrain des gens, peut-être des gens qui ont travaillé, par exemple, au Parti conservateur, parce que là, il faut vraiment professionnaliser ce parti-là, aller chercher des gens qui veulent gagner aussi, parce que c'est ça, généralement, c'est des gens qui veulent s'associer avec quelque chose. Oui, ils veulent une job, mais c'est des gens qui veulent faire partie d'une équipe gagnante. Et je pense qu'on est à ce point tournant-là où le futur politique du Québec, ben, le Parti conservateur, je pense, va en faire partie comme numéro 2 peut-être pour le moment, éventuellement numéro 1, mais je pense que c'est un objectif qui est atteignable.
Et le premier piège est là, Joe, dans le sens que quand tu professionnalises un parti politique,
ouais.
C'est là que la DQ s'est plantée en 2007-2008.
Ben exact, puis regardez, un des meilleurs gouvernements de l'histoire du Canada en termes de croissance... Le premier gouvernement Mulroney, les gens qui l'ont entouré, c'est des gens qui n'étaient pas en politique. C'est des chefs, des gens qui ont suivi Mulroney, des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Et actuellement, c'est ce que je sens au PCQ. Hier au rallye, je parlais à un gars, il disait « Ben moi, je suis venu pour la première fois, j'ai appris comment ça fonctionnait, je ne savais pas que ça se faisait comme ça, mais là, je suis intéressé pour l'avenir. » Tu sais, il faut que tu amènes des gens. Et moi, honnêtement, mettons théoriquement, je suis élu ministre demain matin ou député. Dans mon équipe, le critère numéro un, c'est « As-tu déjà fait de la politique professionnellement? » Oui, t'es out.
T'es out.
Tu vas chercher des gens du 109 complètement.
Oui.
Ça, c'est un gros red flag. Là. Si ça fait 20 ans que tu te promènes dans les cabinets, pour moi, c'est un gros red flag. Là,
exact. Que t'as fait partie du privé. C'est l'erreur de Mario Dumont en 2007. C'était exact. Rempli de libéraux et de péquistes qui avaient sauté à clôture.
C'est l'erreur aussi de la CAQ.
La CAQ, oui, la CAQ, c'est des péquistes à grandeur.
C'est la moitié de losers péquistes. Et de loser libéral de l'époque. C'est essentiellement ça. Ben, je te dirais trois quarts loser péquiste, 25% loser.
Oui.
Mais c'est ça. C'est.
Hey, j'aimerais ça t'entendre, c'est Jerry, là-dessus, ça. Sur ce qu'on vient de jaser, sur le côté de Éric, plus près. Oui. Sors avec le micro et les écouteurs, sors de chez vous un peu et allez voir les. Parce que les moyens sont là. On ne pouvait pas faire ça il y a 10-12 ans. C'était plus difficile. Aujourd'hui, même avec un minimum de talent et de budget, tu es capable de produire des vidéos d'une qualité exceptionnelle. On l'a vu lors de la soirée à Chauveau. Tu vois ça comment, toi?
Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Tantôt, Joe parlait justement. Il y a certaines ficelles que Éric a déjà tirées dessus. Je pense qu'ils sont très efficaces. Il y a un côté un peu comme autonomie du Québec par rapport aux ressources. Hein. Ça touche beaucoup les régions. Joe en a parlé tantôt. Ça brasse. Ces gens-là qui vivent en région, ils ont un côté comme autonome hein, de leur. Parce qu'ils vivent loin, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Il y a le côté aussi peut-être que. Éric va peut-être travailler, sûrement, je pense que c'est dans son plan, un espèce de programme un peu plus green, dans le sens que logique, je parle green logique, là, on s'entend-tu, là, ça veut dire pas des affaires complètement olé-olé. Mais le bout, je pense qu'il n'y a pas en ce moment, je pense que le bout qu'il faut, il faut qu'ils prennent, oui, aller sur le terrain, mais vous allez voir là, où est-ce que je veux m'en aller. Il faut qu'ils prennent le bâton du pèlerin. Puis le bâton, je vais faire une joke là, ici, la canne du pèlerin. Donc, autrement dit, ça prend, il faut que aller voir les personnes âgées. Il faut qu'Éric voit, faut dans les vidéos, faut voir que ce gars-là va s'occuper des personnes âgées. Parce que présentement, on le voit là. Les boomers ont zéro peur des mouroirs du gouvernement. Zéro.
Incompréhensible.
C'est le plus grand mystère pour moi.
Ouais, parce que les prochains sont allés là, puis la gang qui sont traités comme de la merde, ils vont voter pour eux autres.
Voilà. Sont à la porte du mouroir, sont à la porte de se faire bouffonner par la machine gouvernementale, sont à la porte de se faire mépriser, eux autres qui sont gestueux en plus, sont à la porte, autrement dit, de se faire ridiculiser en jaquette, puis ça les dérange pas pour 5 cents.
Incompréhensible.
C'est ce bout-là, si tu veux donner un coup de jarnac à la CAQ, c'est ce point-là qui est le plus important pour moi. Donc, Éric, autrement dit, moi, là, je parle à vous, aux boomers, à sa gang-là. Un boomers, là, il a 59-60 ans, puis le boomers, les plus vieux, sont les 15. Alors, entends-tu, là? Ceux qui ont 85, c'est une génération silencieuse. C'est pas d'eux autres que je vous parle. Je vous parle des boomers, ceux qui ont un pied dans la boîte, ceux qui sont à veille de mettre les jaquettes. Ils sont pas en jaquette en ce moment. Ils s'amusent en ce moment, mais ils vont y mettre les jaquettes. Il faut qu'Éric fasse comprendre aux futurs jaquettés, OK, que moi, je vais m'occuper de vous autres. La CAQ ne l'a pas faite pour les plus vieux. Ils ne l'ont pas faite. Okay? Ils ont abandonné.
Échec total.
Moi, je vais m'occuper de vous autres. La CAQ ne s'occupera pas de vous autres. Si Éric est capable de mettre ça dans la tête des gens, c'est la plus grande victoire qu'on peut pas faire.
Ah, ben, regarde, parce que oui. C'est un très bon point pour finir. Joe, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses du point de
non,
Jerry?
Je suis d'accord. Puis il y a un ensemble d'enjeux qui peut les toucher. Je pense un petit peu de tout, là. Tu sais, l'inflation, oui. Le système de santé, moi, je suis pas prêt à dire que c'est perdu dans le sens où il y a réellement des améliorations qui pourraient avoir un effet incrémental sur l'efficience du système, là. C'est impossible. Tu sais, je veux dire, si vous n'avez pas été convaincu dans les 2 dernières années que le modèle du monopole public ne fonctionne pas, je veux dire, vous êtes peine perdue, là.
Non,
mais il y a
vraiment.
Certainement, je pense, je pense que les gens doivent le réalisent de plus en plus. Là. Je lisais des débats un petit peu, puis les gens disent ça n'a pas de sens. Ils pensent ici, c'est à peu près la moitié de votre contribution en impôts qui va par la bande, là, sur le coin d'une napkin, là, va au système de santé. Donc, tu sais, l'équivalent que vous payeriez en prime aux États-Unis ou ailleurs, vous auriez des services de bien meilleure qualité. Là. Et c'est le cas actuellement dans plusieurs pays, par exemple, européens.
Vincent Gelozo vient d'avoir un petit bébé. Puis, ils ont passé une couple de jours à l'hôpital, tout ça. Ils nous ont envoyé des photos là, de sa chambre d'hôpital. C'est une chambre d'hôtel. Puis, il dit, tous les tests qu'ils font sur l'enfant, je capote. Il a déjà fait un test.
Pourquoi?
Un
il
test
est, il est où, Vincent?
Il est en Pennsylvanie. Virginie.
Virginie, oui.
OK.
Virginie.
Mmh. Wow.
OK.
Puis, là, moi, je dis en joke, j'ai dit, ouais, mais tu t'es hypothéqué pour accoucher, là, pour que le petit accouche. Tu sais, un moment donné, arrête de niaiser, là, ça t'a coûté 20 000. Il dit, Guyane, il dit capoté. Il dit, mon assurance me coûte entre 500 et 700 piastres par mois, environ. Puis, je paye le premier 1 500 de dépenses de santé, puis après 1 500, je paye plus une cent. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je la tape eux, là, 500 par mois de prime, puis le premier 1 500 à ma charge.
Je prends le deal. Je prends le deal anytime.
Contre la moitié de mes impôts demain matin.
Je prends le deal anytime.
C'est familial.
Oh oui,
c'est familial. Puis tu sais, écoute, il dit un test auditif à la naissance. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il n'y a personne qui offre ça au Québec. Et nous autres, c'est d'office qu'on a ça. Puis Le thinking, je suppose, c'est que si tu détectes un enfant qui est sourd à la naissance...
Ouais, mais allez lire le texte du chum à Véro Cloutier dans le magazine de Véro sur
je
lui,
l'ai pas lu.
Comment il voit...
Ah, lui qui est sur le board d'Investissement Québec?
Ouais,
là?
Va voir. Ouais, c'est ça.
Oui. Hey, oui, oui, oui.
L'université, c'est pas réalisable pour personne aux États-Unis. On les... Regarde, je suis là-dedans, là. C'est des campus avec 100 000 étudiants sur le campus. D'après moi, il y a du monde qui va à l'université, puis les prix que tu parles, ça ressemble pas mal aux nôtres quand t'es in-state, by the way. Là. Puis après ça, les assurances, c'est ça. Moi, les prix que j'ai ici, c'est les mêmes prix ou à peu près. Tout de la marde. Donc, c'est dur de convaincre un domien de ce que vous venez de dire. C'est dur de convaincre un domien que meilleur existe quelque part. Parce que moi, puis regarde, on va finir là-dessus. Moi, pour moi, ce que Eric a à convaincre, c'est qu'on est, on peut avoir mieux. On peut gagner, on peut être meilleur. Mais Joe dit on est cynique. Moi, je pense que c'est les boomers qui sont cyniques parce que c'est eux qui trouvent que ce qu'ils ont en ce moment comme service de marde, ils trouvent que c'est parfait. Ils veulent pas le changer. Si tu parles des États-Unis, si tu parles de la Suède, si tu parles d'ailleurs, non, on veut garder ça. Quel job de bras incroyable!
Ben écoute, Jeff, les boomers, présentement, ils vont chercher leurs médicaments à la pharmacie. Ça lui coûte 90$, puis ils traitent la pharmacienne de crosseur. Mais le vrai coût, c'est 550.
Ils comprennent pas. Mot de la fin, mon ami Joe.
Écoute, moi, je suis assez enthousiaste. Depuis le début 2020, je suis plus enthousiaste que j'étais en 2020. Début 2022, pardon. Je suis plus enthousiaste que je l'étais en 2021. Je pense que la tendance, puis d'un point de vue mondial, là, je regarde un petit peu aussi aux États-Unis, je pense qu'il y a un recentrement du débat politique.
Ouais.
Pour moi, le gros game changer, c'est la redescente par rapport au pic de l'hystérie de la, entre guillemets, crise climatique. Ça, c'est en train définitivement de redescendre. Je regarde aussi ce qui se passe au niveau de tout ce qui est cancel culture, wokisme, etc. Je pense aussi que ça l'a piqué. Donc, je pense que la table est mise pour un retour vers un recentrement du débat politique. Et la droite, je pense, peut se positionner bien par rapport à ça, mais avec une approche différente qui est populiste, oui, mais intelligente. On le voit actuellement, là, Pierre Poilievre, c'est un bon exemple de ça. Éric, dans un autre gamme, mais similaire également. Fait que je dirais que je suis assez enthousiaste pour les prochains mois, pour le reste de 2022, en fait le prochain cycle électoral. Ça va être vraiment une game d'organisation et de communication parce que le background sur les enjeux est en train de se mettre. Je pense que l'alignement des planètes est peut-être favorable pour la droite, mais ça va être vraiment être une game d'organisation, de sortir le vote et aussi de communiquer efficacement là, ces enjeux-là.
Exact. Le côté organisationnel pour sortir le vote, très important. On sait que eux autres, c'est l'avantage de ces vieux partis-là. Même la CAQ est déjà, en tout cas, ce qu'on me dit, un peu organisé pour sortir les vieux. C'est ce que j'ai cru comprendre hier. Le PQ avait encore une certaine organisation, donc oui, il y a du monde qu'il faut sortir. My friend Yann Sénéchal, votre conseiller.net, ton petit mot de la fin pour finir. C'était belle. Hey, 53 minutes à jaser. Je pense que c'était la joute avec Paul Larocque.
C'était la joute
à Paul Larocque. Je pense qu'on a fait un panel pas pire. Mot de la fin, Yann.
La différence, c'est qu'ils disent toutes la même affaire.
Oui, c'est vrai.
Fait que là, le cachette 1200 va rentrer.
Oh, ben là, on s'en parle. On est pauvres. Es-tu aussi optimiste que Joe? C'est vrai que tout ce que Joe a énuméré, c'est vrai qu'on le sent. T'sais, on regarde l'histoire des Oscars, on voit que ça a fait patate cette affaire-là. Le monde dit, mais attends, là, qu'est-ce qui est arrivé là? OK, le gars était innocent, t'as bien qu'à le mettre dehors quand c'est arrivé. Là, on est rendu qu'on l'a banni à vie. On a banni ci, on a banni ça. Là, le monde commence à réaliser que ça n'a plus de sens. Toutes les histoires avec les nageurs, nageuses, etc. Ils ont étiré l'élastique pas mal et on sent que... Ils ont été trop loin, donc là, ça est en train de revirer de bord. Es-tu aussi optimiste ou t'es cynique?
Je reste cynique. honnêtement, là, j'ai pas confiance dans les Québécois. J'aurai jamais confiance dans les Québécois. Où est-ce que j'achète votre discours? C'est qu'il peut se passer quelque chose à un moment donné dans la campagne qui fait qu'Éric capitalise là-dessus à cause de son talent, puis ça peut... partir sur une... Mais ça peut arriver aussi avec Gen D, by the way. Là. Je pense qu'il est moins talentueux
qu'Éric. Non. Il n'y a aucun contact émotif entre GND et même les gens qui votent QS.
Je suis d'accord, mais tu sais, je veux dire, une affaire, il y a un entrepreneur qui a crossé le système à quelque part, puis Québec solidaire saute là-dessus.
Ouais.
On n'est jamais à une histoire près de voir tout déraper au Québec. Là. Les Québécois sont pas trop stables. Où est-ce que j'ai confiance, c'est dans le talent d'Éric. Le talent est là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un politicien à droite aussi talentueux que ça au Québec. Fait que ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Mais j'ai de la difficulté à avoir confiance. Puis l'idée, c'est vraiment que le groupe de la population qui veut que rien change, il est puissant.
Ben, c'est au plus puissant. Jeune à brosser à cage un peu. C'est à nous autres à garder, à rester... fixé sur l'objectif. Je pense qu'on fait on donne un bon coup de main à notre ami Éric, on va continuer le faire jusqu'à l'élection, puis même après. Hey, merci, Joe Hamel, toujours le fun de t'avoir, Joe. Yann Sénéchal, toujours le fun. Jerry, thank you. Jeff Liberté, terminé.
Fini l'époque où tu devais faire le tour du quartier pour ta campagne de financement. Tu veux ramasser de l'argent facilement pour ton école, ton club de cheer, ta troupe de danse, ton équipe sportive ou même pour la cause qui te tient à cœur. Grâce aux bûches de Noël de Pâtisserie Michaud, tu vas l'avoir, ton financement. Avec Willy, tu vas devenir le magnat de la bûche de Noël. Terminé les enveloppes pleines de monnaie à gérer. Maintenant, les ventes se font en ligne et tu vois tes profits en temps réel. Ça te parle? Va vite t'inscrire au pâtisseriemichaud.com. Les places sont limitées. Ensemble, on va le réaliser, ton financement.
Action VR et Caravane 185, partenaires de Radio Pirate, vous offrent une grosse promotion pour commencer l'année 2024. Vous êtes là à préparer le camping de la famille pour cet été ou encore les vacances? On a chez Caravane 185 et Action VR les produits de 2024, les nouveaux produits qui viennent de rentrer. On les a au prix de 2023. Wow! Tout coûte plus cher qu'avant, partout. Mais pas chez Action VR et chez Caravane 185. Je vous rappelle que JP, méga pirate. JP est tanné d'entendre Jeff parler de petits motorisés, la petite classe B. Là. Eh bien, on a maintenant le Talavera et le Compass disponibles. Pour les amateurs de plein air, n'oubliez pas que VR Cargo, ça se passe chez Action VR, le plus gros vendeur, le plus gros détaillant de VR Cargo Québec. Vous pouvez mettre là-dedans votre moto, votre 4 roues, votre side-by-side, vos canots, vos motocross. Il y a de la place. C'est extraordinaire. Que ce soit pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin Filteau-Saint-Nicolas. On est également à Saint-Antonin avec Caravane 185. Et sur le web, pour tout le monde, actionvr.ca ou groupevr185.com.
Professionnels et entrepreneurs du Québec, augmentez votre productivité avec Nimbax. Nimbax vous aide à mieux comprendre et surtout maximiser l'utilisation des logiciels Atlassian tels que Jira et Confluence. Nimbax est votre seul partenaire 100% québécois. Gestion de licence et formation pour votre équipe dans le but d'atteindre votre plein potentiel. Et surtout, un meilleur retour sur votre investissement. Nimbax, les experts Atlassian au cœur de Québec. Visitez Nimbax, Nimbax.com. Swing de golf à Lévis, c'est plus qu'un champ de pratique. C'est une boutique de golf qui offre des équipements de toutes marques et pour tous les niveaux de golfeurs. Ping, Titleist, TaylorMade et Cobra. Peu importe la marque, nous avons un grand choix et ce, au meilleur prix. Swing de golf, c'est aussi le service d'ajustement de vos bâtons neufs par notre expert, Alain Mador, qui compte 37 ans d'expérience. Renseignez-vous aussi sur nos forfaits pour frapper des balles dans notre champ de pratique, ainsi que sur nos cours gratuits le dimanche matin, qui seront offerts à partir du 5 mai. Swing de golf à Lévis, le long de l'autoroute 20.